Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Dans cette demi-heure, nous allons faire le point sur l'épidémie de Covid. Où en est-on? Faut-il prendre des mesures plus strictes? Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le zapping, le Québec a décidé de reconfiner, de fermer les restaurants. Donc il y a des pays où les mesures sont plus strictes. On en parle ce matin avec deux médecins qui sont là. Gérald Kirzek, bonjour. Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu.
Bonjour.
Et vous êtes également le médecin de TF1. On vous voit régulièrement, on vous a vu pendant tout le Covid faire des points très factuels. Et également avec nous, Gilles Pialoux, bonjour. Vous êtes chef du service des maladies bonjour. Infectieuses à l'hôpital Tenon. Vous avez publié « Vous n'étions pas prêts » aux éditions Jean-Claude Lattès. Juste pour vous dire, hier, moi j'ai animé une émission, un débat à 11h où j'étais un peu seul contre tous parce que la tonalité générale en ce moment, elle est plutôt sur laissez-nous vivre. Il n'y a pas de deuxième vague. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses. On a entendu ce que moi je trouve être parfois des bêtises, mais c'est vrai qu'on a entendu tout et son contraire. Le virus a muté. Il n'y a pas de deuxième vague. Il n'y a pas de mort. C'est un virus qui n'existe pas. Ou encore le professeur Raoult, la peur est pire que le mal. Donc peut-être faire avec vous, Gilles Pialoux, le point de la situation ce matin dans votre hôpital. Puisque je rappelle, je suis un petit peu longue dans mon introduction, mais je rappelle que dans votre livre, c'est le journal au quotidien d'un médecin qui s'est retrouvé en première ligne avec des malades du Covid. Donc vous parlez de ce que vous savez, parce qu'hier je me suis fait moi insulter en disant que les médecins que j'écoutais ou que je lisais n'étaient pas concernés. Vous êtes concerné, vous avez donc une légitimité pour parler.
C'est pas seulement un problème. C'est pas seulement un problème de légitimité, Valérie. C'est un problème d'être ancré dans une réalité qui bouge quotidiennement, d'être dans les cellules de crise, d'avoir à gérer l'augmentation du capacitaire, la tension sur la réanimation. Et je suis très content puisqu'on est sur Sud Radio de dire que la meilleure nouvelle qui puisse arriver pour Marseille, c'est que justement ceux qui ont pris la parole sont ceux que précisément. Ont les mains dans le cambouis, c'est eux qui voient monter la pression en réanimation. Pour répondre à votre question très précisément, à Tenon, on n'est évidemment pas du tout là où on en est en mars, en avril, mais on est peut-être là où on en était en février. Donc notre réanimation qui avait 20 lits, qui est montée à 42, elle est actuellement occupée avec 10 lits, donc on est déjà à 50% de la réanimation, sachant que chaque fois, il faut rappeler que les autres malades sont toujours là, et je dirais plus là, puisque on est au début de l'automne. Pour ce qui concerne l'hospitalisation et donc mon service est à moitié occupé par du Covid. On a ouvert deux autres unités, on en ouvre une troisième actuellement. Donc on a une marée montante. Et puis on tord le cou aussi aux éléments au début de août et fin août qui disaient c'est des formes moins graves. Bon, voilà, sur les 10 malades hospitalisés en réanimation, il y en a 8 d'intubés. Donc on n'est pas du tout dans un courant de tranquillité. Et moi je suis particulièrement énervé parce que j'appelle le courant rassuriste qui est absolument affligeant, cette négation des données épidémiologiques. On s'en fout que ça s'appelle une deuxième vague ou une résurgence ou une nouvelle circulation. Il se passe quelque chose qui pèse sur l'hospitalisation et tous les éléments plaident pour que fin octobre, on soit dans une situation très difficile, en tout cas en Île-de-France, en PACA et dans bien d'autres villes comme ça a été égrené par le ministre de la Santé.
Alors, il y a une défiance. Je vois les réactions de nos auditeurs qui sont plutôt dans la défiance. Et beaucoup de Français, nous aussi, on est énervés de tous ces bobards. On nous dit un auditeur, Gérald Kirzek, il y a eu, et vous le dites aussi dans votre livre, Gilles Pialoux, un déballage médiatique totalement inédit, une surinformation, des querelles de soignants. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver et à comprendre et à savoir qui croit. Enfin,
Gérald Kirzek. Je dirais même qu'on assiste à une hystérisation du débat et du coup, il y a un problème de crédibilité médicale, ça c'est clair. Le problème, c'est qu'on passe du tout au rien ou du rien au tout entre ceux qui disent non, il se passe rien et c'est plutôt dans le camp des complotistes. De l'autre côté, on a des gens complètement alarmistes. Or, je pense que la position d'un médecin, mais Gilles Pialoux l'a très bien dit, il faut des choses factuelles, il faut des choses, il n'est pas question d'alarmer les gens et de dire on va tous mourir, il n'est pas question non plus de dire il ne se passe rien. C'est clair qu'il se passe des choses dans un contexte très particulier, qui est un contexte depuis des années de réduction des moyens de l'hôpital public et donc du coup des services de réanimation. Je reprenais les rapports sur les services de réanimation avant la maladie Covid. Les services de réanimation sont saturés entre 93 et 99%. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez des services en flux tendu. Moi, comme urgentiste au SAMU, on fait le tour du périphérique de Paris avec le malade dans l'ambulance avant de trouver une réanimation. Vous voyez, on fait parfois plusieurs fois le tour. Donc, on voit bien qu'on est en permanence, et avant même l'histoire du Covid, dans une situation en flux tendu avec un problème de lit d'hospitalisation. Donc, le vase, il est plein. Et la moindre goutte d'eau, alors si en plus la goutte d'eau elle est extrêmement importante, comme c'est le cas dans certaines régions, apparemment maintenant en région PACA, comme ça l'a été dans le Grand Est, c'est clair que ça fait déborder le vase. Alors après, il ne s'agit pas encore une fois d'affoler tout le monde et de dire on va tous mourir. On connaît les facteurs de risque, on sait mieux prendre en charge cette maladie aussi, ce n'est pas que de la réanimation. Et je pense que Gilles aussi le voit très bien dans son service. On apprend à faire le diagnostic maintenant plus vite, avec le scanner plus vite, à mettre des antibiotiques éventuellement, à mettre de l'oxygénothérapie. C'est-à-dire que c'est des malades avant de les passer en réa et de les intuber. Et il y en a qui vont aller en réa et qu'il va falloir intuber. Mais globalement, on a aussi appris sur cette pathologie-là. Mais là aussi, il y a besoin de capacité, il y a besoin de lits d'hospitalisation tout en soignant les autres malades.
Gilles Pialou, une remarque d'une auditrice qui dit on ne doit pas confiner parce que les hôpitaux n'ont pas de lits. Et c'est peut-être là qu'on a du mal effectivement à comprendre la nécessité des mesures, puisqu'on nous dit c'est une maladie finalement qui touche pas grand monde, qui n'est pas si dangereuse que ça. Il y a 95% de gens qui guérissent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que dans ce que vient de dire Gérald Kierzek, on a le sentiment que c'est à cause de la défaillance de l'hôpital qu'on est obligé d'avoir des mesures comme celle-là?
Je pense que d'abord, c'est compliqué de tirer les conclusions d'une crise quand on est au milieu, c'est la première chose. Deuxièmement, à tout ce courant qui dit, mais bon, d'accord, bien sûr, c'est une maladie qui laisse 85% de gens avec des formes bénignes, mais quand vous voyez le souk et la crise internationale qui a mis quand même 3 milliards de personnes confinées dans le monde, alors on peut toujours discuter à l'infini pour savoir si c'était les bonnes mesures. Je vous rappelle quand même qu'il y a des chiffres qui sont à l'échelle planétaire, totalement inquiétant. C'est la troisième cause de mortalité aux États-Unis. Troisième cause de mortalité aux États-Unis. C'est quatre fois la guerre du Vietnam. Donc, on ne peut pas balayer sous prétexte qu'effectivement, il y a beaucoup de formes bénignes. Il y a beaucoup de formes bénignes, mais on est dans une situation où on a une maladie en plus. Et comme l'a dit Gérald, dans un système hospitalier d'avant la crise du Covid, qui était ce qu'on appelle nous le monde d'avant entre nous, et on est un peu retombé au monde d'avant, qui était un hôpital qui était sous tension, avec des fermetures de lits qui se sont faites sur 10 ans. Et le discours politique actuellement, épingler Ségolène Royal, c'est inadmissible de dire il suffit d'ouvrir des lits de réanimation. C'est d'une bêtise abyssale, puisque pour ouvrir des lits de réanimation, il faut du personnel en face, qualifié, et que du personnel qualifié de réanimation, ça ne se sort pas en 8 mois d'épidémie. Donc, il y a un certain nombre de gens qui marchent sur la tête, et je crois qu'il va falloir dénoncer ça. Il n'y a pas que Raoul qui marche sur la tête, il y a aussi les politiques qui mettent de l'eau sur le feu pour des raisons politiciennes, alors qu'on est en pleine gestion de crise. En pleine gestion de crise, et il faut dire aussi aux auditeurs, ça a été dit par Gérald, c'est qu'on est dans une situation très différente de mars-avril, car on ne pourra pas externaliser les malades. On pourra les transférer dans d'autres services ou dans d'autres régions, ce qu'on fait effectivement régulièrement en hiver, mais ils vont coexister à l'intérieur du système de santé, les malades qui ont le Covid et les autres malades qu'il faut prendre en charge. Et
ça veut dire quoi externaliser exactement?
Enfin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il y a eu environ 500 et quelques transferts qui ont été faits essentiellement vers la Bretagne, dans des TGV transformés en SAMU, dans des cliniques privées parce que c'était les ordres des agences régionales de santé dans le Haut-Rhin en Île-de-France, et PACA va faire ça. PACA a déjà commencé un programme de alors je ne sais pas s'ils ont commencé réellement pour Marseille, pour mettre les malades dans des endroits qui sont moins surchargés, pour permettre le soin de qualité des patients Covid, et c'est vrai qu'on a beaucoup appris de la première vague, comme ça a été dit par Gérald tout à l'heure, mais aussi le prendre en soin, les autres patients. Il faut savoir que dans les services comme les nôtres, dans les équipes comme les nôtres, je ne parle pas des maladies infectieuses, mais dans d'autres services qui ont des maladies chroniques, il y a des centaines de dossiers qui sont en attente. Quand je dis de dossiers qui sont en attente, derrière, il y a des malades qui attendent de reprendre leurs soins de la première vague parce que ça a été différé. On ne pourra pas le faire ici, parce que c'est une perte de chance pour les personnes. Donc, il faut rassurer les gens. Tout ce courant qui essaye de mettre les choses dans la réalité, c'est aussi pour permettre que le soin soit réparti entre les patients Covid et les non-Covid.
Oui. Gérald Kierzek, vous vous êtes exprimé hier sur les tests. Il y a un problème aussi avec les tests. Là aussi, on a un petit peu de mal à comprendre ce qui s'est passé avec ce dépistage test PCR, test sanguin. Hier, vous avez une patiente qui en fait était malade, mais qui n'a pas été dépistée, c'est ça? Les tests n'ont pas donné le bon diagnostic?
Il se trouve que c'est une collègue qui bosse aux Antilles et que pour rentrer, elle avait besoin de ce test PCR. Elle a été malade il y a plus de 15 jours. Donc, globalement, elle n'est plus dans la phase contagieuse. Mais le test qu'on lui a fait PCR hier est encore positif. Et donc, il y a plusieurs problèmes sur les tests. Premièrement, on teste pas les bonnes personnes. On teste des gens qui se font tester parfois tous les 2-3 jours, etc. Par précaution, par peur, par tout ce qu'on veut, mais globalement, ceux-là, ils n'auraient pas besoin d'être testés, alors que ceux qui sont vraiment malades, bah, du coup, le système est embouteillé par ceux qui n'ont pas besoin. Deuxièmement, les délais de rendu font qu'on rend des résultats, sauf exception. Alors nous, aux urgences, on a un peu des laboratoires qui rendent plus vite, mais quand vous allez en ville, il faut déjà avoir le rendez-vous au labo, vous mettez 2-3 jours, après vous mettez encore 2-3 jours pour pouvoir avoir le résultat. Conclusion, quand vous avez le résultat, vous n'êtes plus contagieux, ou en tout cas, vous êtes sorti de la phase la plus contagieuse. Troisième problème, confusion totale entre les prises de sang, les tests sérologiques, les TROD qui sont faits un peu partout à la va-vite, etc. Et les gens ont l'impression que ça leur donne soit une immunité quand ils disent « Ah bah ça y est, j'ai été contaminé », soit au contraire, ils confondent avec leur contagiosité. Donc, on voit bien que là aussi, les messages ne sont pas clairs. Et enfin, la sensibilité, moi, la patiente d'hier, la sensibilité des tests qui est extrême. Et donc, du coup, on dépiste des gens qui sont soit guéris, soit plus contagieux, soit qui ont eu un Covid ancien. Mais en tout cas, on est incapable de dépister rapidement et donc d'isoler rapidement et donc de remonter les chaînes de contamination rapidement. Et donc là, il y a un vrai problème, effectivement, sur les tests. Oui. On n'a toujours pas les tests salivaires. Quand on va arriver, nous, dans une période aux urgences où il y aura les syndromes viraux, on a vu un peu le début de pagaille dans les écoles. Les gamins qui arrivaient avec le nez qui coule, etc. Ouais. Les instits les arrêtaient. Hop, ils disaient, il faut un certificat comme quoi il n'est pas contagieux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, aux urgences? On va avoir des gens avec des syndromes grippaux. Comment voulez-vous faire la différence si on n'a pas encore ces tests salivaires qui sont, entre nous, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, autorisés par la FDA aux États-Unis quand même?
Oui, oui, Gilles Pialou, sur le virus en lui-même, vous en parlez hein, dans votre livre. Comment est-ce qu'on la surprise qui est arrivée avec un virus qui surgit, qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Il reste encore beaucoup d'inconnus sur ce virus, en particulier sur les gens qui ont des Covid longue durée qu'on ne sait pas vraiment soigner encore. Est-ce qu'il y a quand même des progrès qui ont été faits sur la connaissance du virus?
Alors bien sûr, mais on a appris en courant dans cette première vague, ce que je raconte un peu dans mon carnet de bord, mais c'est aussi que on a appris beaucoup des soins en réanimation, ça a déjà été dit. On apprend effectivement, comme vous le dites Valérie, de cette émergence, et en plus on n'a vraiment pas fini, de cette émergence de symptômes durables post-Covid, dont on n'a pas de recul, puisque par définition, les post-Covid, nous on a organisé les hôpitaux de jour, c'est des gens qui étaient hospitalisés il y a 3 mois, donc on manque de recul pour savoir s'il va y avoir des formes chroniques, comme on l'a décrit dans le chikungunya, par exemple. Et surtout, on manque effectivement d'une vision globale de cette maladie qui est très complexe. Hein. On a pensé que c'était une maladie respiratoire, on s'est égaré sur la grippounette. Et donc, il faut être extrêmement prudent, et notamment prudent quand on dit, ah bah oui, c'est des sujets jeunes, ils peuvent se contaminer. Oui, bah, non, le dernier qu'on a passé en réa, il a 44 ans, c'était avant-hier, et le dernier qu'on a hospitalisé de jeunes, il a 27 ans. Donc, il y a des formes graves aussi chez les jeunes, c'est très rare, mais il y a aussi des formes graves, donc il faut être extrêmement prudent. Mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Gérald tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment pour l'instant un défaut de politique de dépistage, et plus encore, de dépistage et d'isolement, parce que on a dit aux gens, ben oui, faites-vous dépister, mais vous comprenez bien que quand ils sont dans la nature pendant 10 jours, ben ils s'isolent pas vraiment, ils prennent pas vraiment les mesures, et que quand ils se savent positifs au Covid, ils ont évidemment une politique de mesures barrières qui est beaucoup plus efficace. Donc on manque de dépistage et on manque d'une politique claire d'isolement des personnes, comme certains pays le font beaucoup mieux, l'Espagne, l'Allemagne, la Corée, etc. Donc on n'est pas sorti de l'auberge.
Nous avons 65 millions d'épidémiologistes en France désormais, donc beaucoup de nos auditeurs qui sont extrêmement en colère de votre discours. Moi, je trouve que c'est un autre discours. Je veux dire, André Bercov derrière moi, c'est de dire que c'est manipulé. On veut faire un vaccin. Voilà que. Alors attendez, j'ai perdu les. Oui. Valérie, oui, allez-y, Gilles Puyallou. Oui.
Non, c'est juste que là, dans la deuxième vague où la circulation chronique du virus, on ne sait pas comment on va l'appeler, dans ce qui se passe actuellement, il va falloir faire de la pédagogie de l'incertitude, de ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment le virus bouge. Il bouge très peu, contrairement aux fantasmes qu'on entend aussi un peu du Sud. Il bouge très peu, c'est une très bonne nouvelle. Il bouge très peu par rapport à d'autres virus comme le VIH, la grippe, etc.
Donc, il mute. Ça veut dire quoi, bouger? Bouger, c'est muter.
Il mute très peu, oui, et c'est tout à fait.
Vous entendez, c'est ça le message que j'ai perdu. Un auditeur qui me dit, quand est-ce que vous allez accepter que le virus a muté?
On accepte que le virus a muté, mais pardon, excusez-moi.
Ouais, allez-y.
Allez-y. Non, je dis, on accepte que le virus a muté, mais il mute sans que c'est, pour l'instant, à l'heure où on se parle, d'impact sur sa transmissibilité et d'impact sur son agressivité. Contrairement, effectivement, à ce qui a été dit par Didier Raoult, ce virus a des mutations qui n'impactent pas le virus. C'est un virus extrêmement stable, qui est plutôt engageant, d'ailleurs, pour la recherche vaccinale. Bien sûr qu'il mute. Tous les virus mutent. Ils mutent tous les 18 jours ou deux fois par mois. Enfin, bon, il y a plein de modélisations là-dessus. Mais ça n'impacte pas notre discussion actuelle sur le remplissage des hôpitaux, l'agressivité de la maladie et sa transmissibilité. Alors, peut-être que dans 3 mois, ça aura changé. Mais pour l'instant, c'est comme ça.
Oui. Il y a une décrédibilisation. Je trouve qu'il y a une décrédibilisation de la parole médicale et d'experts. Absolument. Qui est assez terrible dans cette histoire. C'est-à-dire que avant, j'allais dire, ça redonne du crédit aux politiques finalement. Avant, c'était les hommes politiques qu'on croyait pas. Maintenant, depuis 6 mois, on voit les médecins de partout en train de s'écharper, de régler leurs comptes, décrédibiliser la science. Je trouve que ça va avoir des conséquences assez terribles. Le problème, c'est que là, il faut qu'on tienne sur la durée. On l'a dit, hein, le président Macron avait dit, il va falloir tenir. Il va falloir tenir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir des mesures de bon sens, raisonnables et qui soient consensuelles. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'aller arrêter la vie et d'aller tout stopper, d'aller tout confiner, parce qu'on voit bien que ça ne serait même plus acceptable par la population. Mais entre je ne fais rien, je vis comme s'il n'y avait pas de virus et je ferme tout, vous voyez qu'il y a une position qui est médiane, qui est raisonnable. Je pense qu'on est les tenants de ça. Enfin, moi, je ne suis pas extrémiste sur cette histoire-là, Gilles Puyallou non plus. Ce que je peux regretter, c'est qu'effectivement, il y a certains confrères ou consoeurs qui sont sur des positions extrêmes et c'est ça qui induit de la confusion, voire de la colère. Et je comprends vos auditeurs qui sont en colère en disant au bout d'un moment, écoutez, ça suffit vos querelles, etc. On va faire comme si ça n'existait pas et on avance. Et ça, c'est assez terrible parce que le rôle du médecin, ce n'est pas ça. Le rôle du médecin, c'est quand même d'avoir une position un peu éclairée, un peu sage pour qu'on puisse vivre ensemble et tenir avec ce Covid.
Oui, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, elles sont aussi difficilement compréhensibles. Pourquoi les salles de sport, pourquoi les restaurants, pourquoi pas les universités et d'autres endroits. Quelqu'un m'interroge sur les cures thermales qui ont continué. Là aussi, il y a de la défiance.
Et pourquoi Marseille, on a l'impression avec Marseille qu'il y a une espèce de bras de fer un peu entre le ministre et puis Didier Raoult à Marseille. On a l'impression que ça s'est… Quand je parlais en début d'émission d'hystérisation, il y a eu une polarisation, les pro-Raoult, les anti-Raoult, les pro-chloroquine, les anti-chloroquine, les pro-Marseille, les anti-Marseille. Alors que, enfin, encore une fois, que ce soit à Marseille, à Paris ou ailleurs, on est tous des êtres humains avec ce virus. L'objectif des médecins, c'est de soigner le maximum de monde et qu'on devrait tous avoir le même discours. Donc, il n'y a pas à avoir des oppositions. Et c'est vrai que je pense qu'en termes de communication politique ou même de politique tout court, le fait d'avoir ciblé un peu comme ça Marseille, alors même si les indicateurs étaient au rouge à Marseille, etc., était peut-être une erreur parce que du coup, c'est mal compris par la population. Alors que ça devrait être compris parce qu'encore une fois, c'est dans l'intérêt de tous. Alors, peut-être pas d'aller fermer. Entre nous soit dit, je vois pas dans les restaurants pourquoi on ferme les restaurants, surtout si c'est pour que les gens se retrouvent chez eux dans des petits appartements à partir de 22h à Paris. Regardez, hier ça a fermé, les gens se retrouvent chez eux dans des petits appartements, ils ont pas compris le message et donc du coup ils vont se contaminer chez eux. Alors finalement les restaurateurs avaient joué le jeu, il y avait des mesures barrières, il y avait de la pédagogie et puis en plus il y avait des contrôles.
Oui, Gilles Puyallou, vous comprenez ça aussi que les Français ne comprennent pas parfois les mesures qui sont imposées et l'impression d'être infantilisé, c'est un mot qui revient régulièrement.
Bien sûr, mais il y a plusieurs éléments dans ça. Il y a effectivement le discours politique pendant la première vague a été totalement incohérent. Alors maintenant, on parle des médecins, mais le discours politique sur le masque a été absolument incohérent. Il y a des bêtisiers pour 10 ans, là, hein, avec ce qui a été dit par le gouvernement, par les ministres successifs. La gestion de la pénurie a été insupportable et on n'a pas compris comment on en était arrivé là. Et je rappelle que la pénurie n'est pas finie. Nous, sur le terrain, on a une pénurie de gants. Ça peut paraître incroyable. Ouais. Pénurie de gants internationale. Donc, une pénurie chasse l'autre. On a une pénurie de réactifs sur les tests virologiques. Donc, le discours politique a été totalement néfaste, hein, dans la première vague, autour du masque notamment. Donc, je comprends. Et effectivement, le discours du ministre de la Santé a été assez... c'était un discours de ministre de l'Intérieur, plus qu'un discours de santé, si je puis dire, parce que c'était des mesures coercitives. Ce qu'il faut faire comprendre à tous, moi j'ai un fils restaurateur, donc je comprends parfaitement la problématique qui est insupportable parce qu'il trouve ça injuste. Mais voilà, on est démunis et c'est compliqué d'expliquer aux gens qu'il y a une démarche citoyenne et une adhérence citoyenne à la prévention qui va devoir monter d'un cran, voire de deux crans, et qui évitera justement le confinement. Alors moi, je ne crois pas qu'il y aura un confinement national, mais déjà un élargissement du confinement par population, par région. Et si les réanimations se remplissent, en l'absence de traitement et en l'absence de perspectives vaccinales, le reconfinement aura lieu. Alors, il n'aura pas lieu nationalement, mais il aura lieu régionalement, et ça sera effectivement pénible pour tout le monde et injuste sur le plan économique et social.
Ouais, vous êtes inquiet et l'un et l'autre sur les semaines qui arrivent. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard?
Ouais. Moi, je suis inquiet, je le revendique avec deux éléments. Ouais. Un, il faut arrêter de dire que on attend que les réanimations soient pleines parce que on a l'expérience en Italie, on a l'expérience en Espagne, on a l'expérience dans le Haut-Rhin, en Île-de-France, que quand c'est rempli, il est trop tard. Ça, c'est le premier point. Donc, arrêtez que les courants rassuristes arrêtent de nous dire ça ne fait que monter là. On ne veut pas que ça monte justement au plafond comme ça l'a été la première crise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je suis inquiet parce qu'on est dans une situation très différente où coexistent les autres malades, comme je l'ai déjà dit, mais aussi l'absentéisme des professionnels de soins pour plein de raisons. Il l'a dit tout à l'heure, Gérald, les enfants, le souk dans les écoles, les lycées, les universités, qui fait que des soignants sont sortis du système de soins. Et je suis très inquiet par cet absentéisme qui monte en milieu soignant et qui va pas nous faciliter la gestion de ce qui se passe. Donc oui, et je pense que fin octobre, on peut se donner rendez-vous, hein, si vous voulez, on reviendra fin octobre pour voir si on avait raison. Fin octobre et début novembre, ça va être extrêmement compliqué dans certains sites et dans certaines régions.
Eh ben écoutez, on refera le point, Gérald Kierzek.
Ce n'est pas de l'alarmisme.
Moi, je pense que l'inquiétude ne sert à pas grand-chose. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'il y ait des mesures. Et je pense qu'à un moment donné, dans ce pays, pour éviter de laisser sur le bord de la route des malades non-Covid et d'éviter d'inquiéter tout le monde, il faudrait qu'on se pose la question d'hôpitaux Covid plus et d'hôpitaux Covid moins. Ouais. Vous savez, en Chine, on a construit un hôpital en 15 jours. Chez nous, ce n'est pas possible. On voit très bien qu'on pourrait augmenter les capacités hospitalières, ce qui sera un volant de sécurité pour tout le monde.
Ouais. Et écoutez, nous n'étions pas prêts, c'est le titre de votre livre, que je conseille parce que c'est vraiment le journal au quotidien, Gilles Pialou, d'un médecin qui a été confronté à ce virus avec toutes les aberrations. Vous ne soutenez pas forcément le gouvernement, hein, votre livre se termine sur un soutien, vous remerciez le personnel médical qui a su faire face à une impréparation et des atermoiements des politiques. Donc on accuse effectivement. Effectivement, je dis nous parce que je partage ce que vous dites, d'être macroniste, ça n'a rien à voir avec la politique, encore une fois. Auditeurs de Sud Radio qui disent vivement André Berkov, vous entendez un autre son, d'autres médecins qui disent autre chose. Je pense que c'est bien d'écouter des médecins qui sont confrontés au quotidien, eux, à des patients. Et nous, on se retrouve, merci à tous les deux, et nous, on se retrouve dans un tout petit instant. Pour commenter l'actualité. À tout de suite.